Les sentiers du sauvage. Victor Hugo écrit : Vous le savez, la pierre où court un scarabée, une humble goutte d'eau de fleur en fleur tombée, un nuage, un roseau, m'occupe tout un jour. Rencontre avec Patrick Bouineau à Carlu.
Je m'appelle Patrick Bouineau, je suis animateur nature au sein d'une collectivité, la communauté de communes du Pays de Fénelon. J'ai toujours été naturaliste depuis que je suis gamin. Voilà. Et aujourd'hui, je fais un métier qui est en rapport avec plus mes convictions, donc c'est top. Mais je peux me sentir bien partout, du moment que je sois immergé dans la nature. Alors j'ai un fait pour les forêts et les causses aussi. Ces milieux qui sont très secs, où il y a peu de végétation, il y a du caillou. C'est très chaud l'été, mais en fait, j'ai découvert qu'il y avait une vie magnifique, en fait, tant au niveau de la flore que de la faune. Donc c'est deux milieux que j'aime particulièrement, donc la forêt et ses causses, périgourdin. Mais j'ai grandi en ville, bizarrement, et on avait un jardin, donc c'était vraiment un espace restreint. Et je crois que c'est là que j'ai vraiment découvert, on n'avait pas grand-chose, il y avait les oiseaux, il y avait les arbres. Il y avait un parc qui n'était pas très loin, j'allais souvent m'y promener aussi. Donc je pense que voilà, et après pourquoi, ben, je ne sais pas. C'est juste que voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours suivi. Depuis tout gamin, j'ai voulu, entre guillemets, travailler avec les animaux, au point où j'ai même travaillé dans des parcs zoologiques. Mais voilà, mais je pense que ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est la nature qui est ici, autour de chez nous, qu'on côtoie au quotidien, voilà, aujourd'hui. Et pas forcément les éléphants et les girafes et les gorilles et autres. Alors, en fait, ce qui est intéressant dans un paysage comme on vit aussi, on a des espèces un peu emblématiques ici, en Périgord noir, comme le faucon pèlerin, par exemple, le hibou grand-duc, qui sont des très belles espèces à observer. On est au niveau des oiseaux, par exemple, on a la genette aussi chez les mammifères. Mais on a aussi plein de petites bestioles qui sont faciles d'accès, les insectes notamment, comme chez les pollinisateurs, mais ça peut être aussi des scarabées, ça peut être des fois des escargots, hein, ça peut être des mantes religieuses comme l'empuse, hein, voilà, qui sont un peu originales. Il y a aussi la flore qui est très intéressante ici aussi. Ouais, voilà. On a la chance d'avoir une diversité de flore très importante. Donc finalement, voilà, on est entouré d'une riche biodiversité, fragile comme partout. Certaines espèces sont menacées comme partout, peut-être moins qu'ailleurs. Donc il faut y faire attention. On a quand même la chance d'être dans un environnement où il y a quand même une grande diversité de biodiversité, tant au niveau de la flore que de la faune, et des paysages aussi qui accueillent cette flore et cette faune. C'est pas objectif, ce que je veux dire. Elle est certainement plus protégée que dans des endroits qui sont plus impactés. Voilà, bon, on a tous, si on pense à la Beauce par exemple, forcément, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de biodiversité dans la Beauce qu'ici. Oui, je pense comme partout, parce qu'en fait, la biodiversité, elle est impactée à la fois par nous les humains, mais de différentes façons. Ça peut être parce que on aime bien que les choses soient très propres, par exemple. Donc voilà, c'est un exemple très concret. Donc on ne fait pas forcément la place à la petite biodiversité, la biodiversité ordinaire, en fait, qui nous côtoie au quotidien. Après, ça peut être sur les choses plus importantes, hein, dans les paysages agricoles, ça peut être dans les constructions plus larges. Hein, on voit bien, on parle souvent de bétonnage, choses comme ça. Donc voilà, c'est comme partout, elle est impactée. Mais on reste quand même dans un environnement qui a un potentiel énorme. En ce qui me concerne, je ne peux parler que de moi et de ce que je connais, et ce que j'ai envie de transmettre aussi par rapport à ça. Je pense qu'on est on fait partie intégrante de la nature, on est une des espèces qui y habitent. Et donc je pense qu'on a ce besoin d'être connecté avec la nature. Voilà, de cette rencontre avec ce qui nous entoure, ce vivant qui nous entoure, parce que je pense qu'on y a évolué, on y a grandi, voilà. Et je pense que c'est important d'y rester connecté pour rester les deux pieds sur terre, on va dire, quoi. Voilà. Et je pense que c'est aussi important de transmettre ça, de donner envie pour des gens qui sont peut-être un peu en recul par rapport à cette nature qui nous environne, de dire, voilà, il y a une source d'émerveillement là, de connaissances, et du coup, quand on connaît mieux, on fait plus attention aux choses, quoi. Donc je pense que c'est fondamental, ouais. Alors j'ai la chance, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir faire un métier qui est vraiment en relation avec des convictions profondes, hein, par rapport à cette nature, de transmettre, de faire comprendre son fonctionnement, de façon plus assez scientifique, hein, par exemple des animations pédagogiques avec les enfants, donc là on transmet des connaissances. Après, il n'y a pas que la porte pédagogique et aussi l'apport sensoriel. Il y a aussi la rencontre avec un milieu naturel, avec des espèces qui nous environnent. Ça peut être une orchidée, par exemple. Hein. Comment vivent les orchidées? Pourquoi ce sont les fleurs rares? Et les orchidées, nous, en Périgord, ici, dès le mois de mars, on peut les côtoyer. Et souvent, on ne connaît pas l'histoire de ces fleurs, par exemple. Donc, c'est sympa de pouvoir transmettre, d'expliquer comment elles vivent. Et puis, avec une loupe, on va s'émerveiller de sa forme, des couleurs, comment elle est pollinisée. Voilà, donc... Et cette connaissance, après, ça permet d'avoir un regard différent sur la nature, l'environnement, et puis de faire attention. Alors j'ai un lien particulier avec la collectivité, donc je travaille pour une collectivité, la communauté de communes du Pays de Fénon. Donc c'est une communauté de communes qui est située entre Sarlat et Souillac, dans le Lot. Donc on est dans le Périgord noir, limite du Quercy. Donc la collectivité dans laquelle je travaille, en fait j'y suis arrivé lorsque j'ai fait une reconversion professionnelle. Je cherchais donc un maître de stage, une structure de formation. Donc c'est la communauté de communes qui m'a accueilli. Et j'ai été mis en contact directement avec les enseignants du territoire. Parce que donc, le président de l'époque était un ancien enseignant lui-même. Donc il a vu l'intérêt de ce que je proposais par rapport à ce rapport aux enfants. Et donc on a commencé à construire des projets pédagogiques avec les enseignants du territoire. Et donc à travers ma formation, on a mis des animations en place. Alors ce qui était intéressant, c'est que c'était des projets pédagogiques donc, qui duraient sur l'année. Donc ça veut dire qu'il y avait plusieurs interventions dans chaque classe sur une année, sur une thématique, la forêt, la rivière, la Dordogne en l'occurrence, la biodiversité, les oiseaux. Voilà. Donc il y avait différentes thématiques qu'on développait de façon intense, pédagogique et ludique pour les enfants. Donc ça venait vraiment en complément de ce qu'apportait l'école. Donc c'est pour ça que ça a très bien fonctionné en fait, voilà. Et donc du coup, mon poste a été pérennisé à travers cette action, voilà, pour montrer l'importance et le travail qui a été fait en amont entre la collectivité et les écoles du territoire. Donc effectivement, donc moi je travaille, j'appartiens pas forcément à un service, je suis un petit service tout seul. Au niveau animation, mais voilà, je travaille aussi avec l'équipe de collègues de l'office de tourisme, et j'ai eu d'autres missions autour de l'environnement aussi, plus techniques, hein, par exemple le suivi d'entretien de ruisseaux, des choses comme ça. Voilà. Il y a quelques années, donc c'était les années 2015-2016, on a mené, la collectivité avec Epidor, donc a renaturé un espace industriel. C'était une ancienne gravière, donc à Vérignac. Donc il y avait encore le concasseur, donc tout le matériel d'extraction, de concassage des matériaux, tout ça. Et donc tout ça allait être démoli pour être renaturé, c'est-à-dire rendu à la nature. Voilà. Et il nous a semblé intéressant avec les élus et puis les enseignants de pouvoir partager ce qui allait se passer sur le territoire avec quelques classes, notamment des classes qui étaient immédiatement en contact avec le lieu où allaient trouver ces changements. Donc on a travaillé avec trois écoles, Carsac, Vérignac et Saint-Julien-de-Lampont. Donc l'idée c'était d'amener les enfants sur site avant le départ des travaux, c'est-à-dire qu'ils voient le site industriel tel qu'il était, avec les camions, le matériel, tout ça. Donc de les amener à se découvrir ce patrimoine, parce que l'extraction des galets a duré depuis les années, enfin début du XXe siècle, on va dire, à différents degrés d'industrialisation, de plus en plus poussée avec le temps qui passait. Donc il y a une question de patrimoine déjà, de passer, voilà. Et à quoi ça servait tout ça, de montrer comment ça fonctionnait. Et puis pourquoi aujourd'hui il y avait cette volonté de rendre cet espace industriel en bord de Dordogne à la nature. Voilà. Et donc on a voulu partager ça avec les enfants. Donc on les a amenés sur place, on a eu donc la visite du site avec, à l'époque c'était l'entreprise Garrigou, il y avait bien sûr toute l'équipe d'Epidor qui était présente. Donc on a pu transmettre aux enfants un petit peu ce patrimoine sous forme de jeux d'enquête, parce qu'on les a fait enquêter sur place. Au début, voilà, ils étaient tous avec leur gilet orange, tout ça, parce qu'on était sur un site industriel. Et l'idée c'est de les faire revenir après les travaux. Qu'ils puissent planter quelques arbres aussi, parce que j'ai aussi un projet de plantation d'arbres pour revégétaliser le site, réensemencer et revitaliser le site. Donc ils ont aussi planté des arbres. Et puis de faire un premier état des lieux du retour dans la nature. Donc on avait observé des traces d'oiseaux par exemple, on a observé des oiseaux, on a observé la végétation qui commençait à revenir. Donc c'était vraiment intéressant de pouvoir donc inclure les enfants dans ce projet de la collectivité, voire beaucoup plus large, parce que c'est un projet qui a une renommée un peu nationale maintenant, parce que c'était un projet très ambitieux au départ. Et donc voilà, à partir d'un projet qui n'avait pas un lien direct avec l'école, comment on a pu construire une action pédagogique et faire partager aux enfants une histoire et puis aussi un avenir. Voilà. Et qu'effectivement, qu'aujourd'hui, dans tout ce qu'on peut entendre, où effectivement, la nature souffre, notre planète souffre, mais effectivement, on voit qu'il y a des actions qui se mettent en place. Et là, c'était une très belle action à leur faire partager, de dire, là, c'est l'espoir, quoi. Voilà. On rend un espace industriel à la nature. Quoi. On va rendre l'espace à la Dordogne. On va lui permettre de recréer une forêt alluviale, de faire venir des animaux comme la loutre, par exemple. Hein. On a pu observer des empreintes de loutre. Donc la loutre est revenue dans le secteur. Donc c'est un animal emblématique. Mais aussi des plantes qui passent inaperçues, mais qui sont patrimoniales, donc très rares, qui se sont aussi de nouveau installées sur le site. Donc voilà, donc ça, c'est des choses intéressantes de partager avec les enfants. Ouais. Donc il y a un autre projet qu'on a mené, qui s'est terminé il y a un an maintenant. On a construit un projet autour des insectes pollinisateurs. Donc les insectes pollinisateurs, ce sont des insectes qui nous rendent de grands services et qui sont aujourd'hui menacés. On connaît tous différentes causes, hein, la modification de l'habitat, bien sûr les insecticides, pesticides, le manque de ressources alimentaires, hein, il y a moins de fleurs qu'autrefois. Les pratiques agriculturales aussi peuvent avoir un impact, tant à la maison d'ailleurs que chez les professionnels, hein, il n'y a pas forcément que les professionnels. Donc voilà, et on a constaté, les scientifiques ont constaté qu'il y a une baisse significative de présence de pollinisateurs, dont on a fondamentalement besoin, hein, puisque c'est eux qui viennent polliniser la plupart de nos fruits et légumes. Donc il y a une action de sensibilisation qui a été menée, donc on a rempli un appel à projet de la région Nouvelle-Aquitaine. On a été retenu dans notre projet, et donc pendant 2 ans, on a sensibilisé notre territoire à cette disparition, et on a surtout amené des solutions, et on a amené une compréhension aussi de ce rôle écosystémique que les insectes pollinisateurs nous rendent, pour y faire plus attention en fait. Voilà. Donc c'était un chouette projet, parce qu'en fait on a dû toucher un public très large, le grand public d'abord, mais aussi les enfants à travers les écoles. On a amené des actions pédagogiques dans toutes les écoles et toutes les classes du territoire, sur 2 années, enfin 3 années, puisqu'on a eu le Covid entre temps. Donc ça veut dire que tous les élèves du territoire et toutes les écoles ont eu cette progression pédagogique. Donc ça a permis aux enfants de découvrir à la fois les insectes pollinisateurs sauvages, on a aussi parlé de l'abeille domestique, aussi du rôle que les insectes pollinisateurs jouaient effectivement dans notre ressource, dans nos ressources alimentaires. Donc c'était un très chouette projet. Voilà. Et ce qui était très bien, c'est que voilà, ça s'est fait à l'échelle d'un territoire. Donc ça veut dire qu'on touche beaucoup de monde, beaucoup de personnes. Et ça a bien résonné aussi au niveau du grand public, parce qu'on a vu quand même beaucoup de monde qui se sont impliqués dans le projet. Tant parce qu'on a construit des hôtels abeilles, on a fait des sessions on a fait de la science participative, voilà, notamment en photographiant les insectes pollinisateurs, en utilisant un outil qui s'appelle le SPIPOL. C'est un programme de science participative qui a été mis en place par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Voilà. Donc on a utilisé cet outil à grande échelle sur le territoire. Donc voilà, on l'a utilisé avec les enfants et avec le grand public. Donc voilà, donc ça a permis vraiment de concrètement mieux prendre conscience de qui étaient les insectes pollinisateurs et puis aussi d'agir pour eux. Voilà. Donc ça, c'était un chouette projet. Et en fait, là, on est en train de développer un nouveau projet qui va un peu dans la continuité de ce qu'on a fait. C'est pas encore officiel, mais voilà, on fait le lancement du projet donc mardi prochain, qu'on a appelé les vergers de la transition écologique en Pays de Fénon. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'implanter des vergers sur le territoire pour favoriser la biodiversité ordinaire. On parlait des pollinisateurs, par exemple, mais pas que, les oiseaux, bien sûr. De reconnecter des milieux qui sont aujourd'hui artificialisés avec des milieux naturels. Et en implanter des vergers qu'on va mener sur sol vivant, avec différentes strates de végétation. L'idée, c'est qu'à terme, en fait, ces vergers puissent être plus ou moins, alors dans quelques années, hein, ça ne va pas se faire comme ça, on puisse avoir un équilibre se créer entre les espaces naturels et le verger, et notamment dans la protection du verger, c'est-à-dire là, tant au niveau des ressources en eau, mais qu'aussi des indésirables, hein, des insectes qui sont nuisibles, entre guillemets, aux fruits, par exemple. Mais parce qu'on aura une biodiversité riche à côté, il y aura un équilibre qui va se créer entre les prédateurs et effectivement les insectes indésirables dans les vergers. Voilà. Donc ça, c'est un exemple concret. Mais c'est aussi de préserver les sols, donc notamment la ressource en eau, donc de faire des paillages, des couverts végétaux. Donc toucher la biodiversité à différents stades. Bien sûr, on fera beaucoup d'animations autour de tout ça. Et donc ça va. On continue. En fait, voilà, on voit bien que c'est une collectivité qui s'est engagée depuis plusieurs dizaines d'années, une bonne dizaine d'années maintenant, dans cette réflexion et surtout dans des gestes simples quotidiens pour préserver sa biodiversité, en fait, voilà. Et ça, je pense que c'est une singularité de notre territoire, de notre collectivité. on voit que ça se développe partout ailleurs aussi. Mais voilà, j'ai eu la chance de participer, de contribuer en fait, à cet élan. Donc voilà, c'est chouette de le retenir, ça. Voilà. L'intérêt aussi, c'est qu'on a à la fois des professionnels, des communes, et on a un verger associatif à Saint-Crépin-Carlieu-Sèche, peut-être vous connaissez déjà. Donc on a 7 communes qui sont impliquées, et on a 3 professionnels qui sont impliqués. Voilà, donc en verger, en maraîchage et verger. Verger-maraîchage, c'est-à-dire qu'on cultive les légumes sous les arbres fruitiers. Bon, il faut savoir qu'ici en Périgord noir, on n'a pas de production fruitière, par exemple. Voilà. À l'exception de la noix et puis de la châtaigne, mais on n'a pas d'autres productions fruitières. Bon, il y a aussi la fraise, bien évidemment. Et l'idée, c'est bien sûr, c'est pas les quelques vergers qu'on va implanter qui vont fournir tout le territoire, mais l'idée, c'est d'initier cette démarche au regard de ce qui se passe aujourd'hui. Hein. On voit bien que peut-être demain, on pourra plus se permettre de faire des livraisons de tel ou tel fruit de l'autre bout de la France ou de notre pays européen. Donc l'idée, c'est de réfléchir ensemble et d'inciter à relocaliser quelque chose. Donc voilà, c'est un exemple très concret. Hein. C'est aussi la façon de gérer le verger ou de cultiver en préservant les ressources en eau, en préservant le sol. On sait aujourd'hui qu'il y a une très bonne connaissance du fonctionnement du sol, et on sait aujourd'hui que voilà, moins on touche le sol, mieux c'est pour lui. Il va rendre possible les services écosystémiques, et donc de préservation des liens qui se tissent entre la microfaune du sol et les arbres et les plantes. Les champignons, par exemple, sont un exemple fantastique. On sait aujourd'hui que les champignons, c'est une grande toile, quoi, comme Internet, et tout est en connexion, parce que j'ai fait exprès d'utiliser le mot Internet, parce que Internet, ça a communiqué. Et bien, les champignons, en fait, ils permettent de cette communication entre les racines des plantes et les arbres. Il faut savoir qu'en période de sécheresse, par exemple, un champignon est capable d'apporter de l'eau qui vient d'un kilomètre à un arbre qui n'a pas accès à cette ressource en eau. Donc voilà, c'est fantastique. Quand on découvre tout ça, c'est tout ce réseau souterrain. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai découvert ça, j'ai trouvé c'est un nouveau monde à explorer, quoi. Il y en a qui veulent aller sur Mars, mais là, on peut juste se pencher sur le sol, et c'est un super monde à découvrir. Donc voilà, c'est ce qu'on veut transmettre, en fait, dans ce projet. C'est comme le projet pollinisateur, c'est comme ça. Pour s'émerveiller et voir comment ça fonctionne et de se dire, ah, je ne savais pas, quoi. Et du coup, on n'a pas le même regard, quoi. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et c'est vraiment ce qu'on veut apporter, quoi. Voilà. Alors, ce que j'aurais dû préciser aussi, ce sont que des vergers de variétés anciennes. Donc, il y a un conservatoire, comme dans beaucoup de régions de France, un conservatoire des arbres fruitiers anciens de la région, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des scientifiques des agronomes qui ont été dans les campagnes, simplement, hein, c'est basique. Hein. Et puis, ils ont été faire des prélèvements, ils ont greffé tout ça. Et en fait, ils ont bien déterminé les différentes variétés qui existaient. Ici, dans le Grand Sud-Ouest, on va dire, voilà. Et aujourd'hui, donc, ces arbres sont de nouveau regreffés, les variétés sont identifiées, on sait telle ou telle variété. Quel terroir, voilà. Donc, l'idée, nous, c'était de planter donc, c'est un patrimoine. Donc là, on est sur la biodiversité cultivée. On voit bien qu'on peut tout à fait à la fois avoir la biodiversité sauvage, mais la biodiversité cultivée aussi, parce que y a des gens qui ont bossé pendant des générations, en fait. Hein. Les paysans d'autrefois, c'est eux qui ont mis toutes ces variétés au point, adaptées à leur terroir, à leur climat, à leur sol. Voilà. Et l'idée, c'est de faire perpétuer ces variétés anciennes, qui sont un patrimoine génétique énorme. Aujourd'hui, il faut savoir que si on prend juste l'exemple des pommes, on va au supermarché, on est assez limité, on est un nombre d'espèces de pommes. Mais voilà, il existe plusieurs centaines de variétés de pommes dans le sud-ouest, par exemple. Et cette richesse de biodiversité cultivée risque de disparaître, quoi. Donc il y a ce conservatoire qui a réussi à sauvegarder plein de variétés différentes, de pommes, de poires, de prunes, de figuiers, enfin voilà, tous les arbres qu'on peut trouver dans le grand sud-ouest. Et de perpétuer, de continuer à développer effectivement leur présence dans notre grand sud-ouest et notre patrimoine, quoi. Donc l'idée, c'est de préserver ce patrimoine cultivé aussi, quoi. On va mener 2 projets cette année, donc un à Saint-Geniès et un à Saint-Julien. À Saint-Julien, c'est dans la plaine agricole, juste là, juste après le pont à droite, là. Mmh. Voilà, entre les canoës et le pont, là, il y a une parcelle de 8 000 m². Donc on fait 85 fruitiers, donc c'est un des plus gros projets. On a une haie champêtre de quasiment plus de 300 mètres qui va connecter la ripisite de la Dordogne avec la partie boisée de l'ancienne couenne de Saint-Julien. Donc entre ça, pour l'instant, c'est un espace, c'est rien. Donc on va faire une connexion entre la ripisite. Donc on est vraiment dans un corridor écologique, là. Et ce corridor écologique va venir border le verger. Donc ça veut dire que là, à terme, cette haie champêtre va permettre aux insectes notamment, mais aussi aux mammifères, aux oiseaux, de pouvoir circuler entre la ripisite via, parce qu'en fait les animaux, ils sont comme nous, ils ont besoin de route. Et une haie, en fait, c'est une route pour les animaux. Alors, je dirais même, au-delà, c'est aussi pour les fleurs et les plantes. Parce qu'en fait, elles ont besoin d'essaimer. Et à faire à mesure, voilà, ça se fait naturellement. Quand il y a une bande qui est propice à ça, et petit à petit, la végétation avance et vient coloniser notamment les plantes basses. Donc ces corridors écologiques, ces haies champêtres, sont vraiment fondamentales. Elles vont apporter des auxiliaires aussi qui vont préserver à terme le verger, quoi. Par exemple, vous avez, s'il y a des chenilles qui viennent attaquer, il y a des guêpes qui sont spécialisées, qui viennent pondre leurs œufs sur ces chenilles, par exemple, et donc qui vont détruire les chenilles. Voilà, donc c'est un exemple basique. Mais en favorisant, en fait, la biodiversité, donc le nombre d'espèces qui vont être présentes, il y a un équilibre qui va se créer entre les insectes qui sont indésirables au verger avec les insectes qui vont venir créer cet équilibre. Il faut favoriser cette biodiversité pour avoir la présence de ces insectes qui vont venir prédater ces indésirables. Voilà. Alors c'est un exemple très concret et on est vraiment dans l'agriculture de demain en fait. C'est d'utiliser, c'est pas de travailler contre la nature, mais de travailler avec la nature. En fait, la nature a tellement à nous apporter. En fait, il faut se réapproprier ce fonctionnement et, cette compréhension du fonctionnement de la nature qui va venir en fait nous épauler, nous aider. Voilà. Et donc du coup, limiter nos intrants, quels qu'ils soient, notamment les phytosanitaires, hein, voilà, et les engrais bien sûr aussi. Quoi. Voilà. Donc voilà, donc dans ce projet, c'est très complet. On peut voir effectivement, il y a l'objectif de faire une production fruitière, de maintenir et d'augmenter la biodiversité ordinaire et d'utiliser la nature pour montrer qu'en fait, ça fonctionne. Elle va venir et nous épauler dans notre gestion du verger. Voilà. Ça, c'est vraiment fondamental. Et donc, on ne peut pas se priver de cette nature.
Le beau message aujourd'hui, c'est que si on fait le choix de laisser de l'espace à la nature, elle va revenir très vite. Elle a cette force, cette capacité à revenir très vite. On voit hein, des fois un exemple très simple, hein, quand vous avez des coupes forestières qui sont rasées à blanc, eh bien, on revient 2 ans après, on voit la végétation comme si elle avait explosé en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, nous les êtres humains, on doit laisser cet espace à la nature. On doit partager l'espace avec la nature. On en fait partie d'ailleurs, c'est ça qu'il faut qu'on réapprenne, c'est qu'on fait partie de cette nature. Et on a besoin de partager notre espace avec cette nature, parce qu'on en a besoin de cette nature. Et ça, c'est vraiment fondamental. Parce qu'elle nous apporte l'eau, elle nous apporte l'oxygène, elle nous apporte notre nourriture, hein, indirectement, mais en partie. Et puis la beauté, voilà. Je pense qu'on est tous sensibles à une balade dans la nature, au bord d'une rivière, comme la Dordogne, dans une forêt, une balade de printemps, quand tous les oiseaux chantent. Voilà. Et je pense qu'il faut qu'on réapprenne à se nourrir de ça, voilà, pour se reconnecter à cette force, à cette énergie de la nature, et peut-être à nous déconnecter voilà, des choses qui sont peut-être un peu superficielles. Voilà. Tout ce qui est technologie, par exemple. Encore, c'est tout une question d'équilibre, c'est pas dire qu'il ne faut pas l'un ou l'autre, mais il faut les deux. Mais voilà, il faut les deux. Voilà.